Question d'islam par Ghalib Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlerons de l'aventure monothéiste qui se décline selon la version juive ou judaïque, chrétienne et islamique, peut-être davantage en ce qui concerne l'islam dans cette émission. Et j'ai plaisir à recevoir Izé Morgenstern. Bonjour.
Bonjour et merci.
Bonjour Izé Morgenstern, merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes auteur, réalisateur, membre des équipes fondatrices du journal Libération et de la chaîne de télévision Arte. C'est pour dire que vous êtes un homme de médias, un relayeur d'opinion, et vous êtes aussi un intellectuel, enseignant, professeur de la philosophie politique et pas uniquement du fait religieux. Et juste en préparant cette émission, vous avez rappelé cette belle parole de Durkheim, ben Dieu, c'est-à-dire la société. Donc c'est avec votre regard bien d'expert que nous abordons ces questions du monothéisme. Alors dans votre ouvrage, paru chez La Découverte, vous parlez des monothéismes au pluriel et non pas du monothéisme avec trois ramifications. Est-ce que ceci ne s'apparente pas, c'est une première question qui me vient à l'esprit, à un trithéisme, ou est-ce que c'est le monothéisme mais multiplié par trois?
C'est une question, je vais vous dire ce que j'en pense, mais il est difficile de la traiter telle que présentée parce que je ne traite pas de Dieu. Donc est-ce qu'il y a trois dieux différents? Est-ce qu'il y en a un seul? Je ne me permets pas d'aborder cette question parce que je ne possède pas d'informations fiables sur ce point. Par contre, on a trois religions qui ne peuvent pas s'étudier séparément. Ça, c'est un des points sur lesquels je combats depuis longtemps, enfin depuis que j'enseigne. Et bien qu'on ne puisse pas les étudier séparément, elles sont différentes. Et à partir de là, qu'est-ce qui les différencie? On peut voir aussi ce qui les rapproche, mais qu'est-ce qui les différencie? C'est la stratégie mise en œuvre pour accomplir le projet. Alors, il existe un projet monothéiste. Donc, c'est un projet monothéiste avec trois stratégies différentes pour le mettre en œuvre. En gros, passer par un peuple, dans le judaïsme, on confie la mission à un peuple, passer par l'universel, la totalité de l'humanité pour le christianisme, et par la Oumma, ou les Oumma, c'est-à-dire des groupes constitués autour de personnes qui ont autorité sur la lecture du Coran. Ce sont trois stratégies très différentes, et elles portent sur le même désir d'avoir un monde de justice et de dignité pour tous. On n'est pas dans la philo, je ne veux pas non plus fâcher les philosophes, mais la philosophie n'a pas pour objet de permettre un monde de dignité de justice pour tous. Et ça n'est pas non plus le projet de la science, c'est un projet éthique.
Savez-vous, cher Izé Morgenstern, que la Oumma, pour les primo-musulmans, et notamment dans la ville de Médine, la ville de Yathrib qui sera baptisée Médine, c'était une Oumma qui incluait les Juifs. Oui. Et par la suite, les Juifs se séparant, ou pour X raisons historiques, ils ne feront plus partie de la Oumma. Oumma, matrie, pour dire qu'il n'y a plus un lien direct avec la terre, et donc la relation n'est plus géographique, physique, mais c'est plus une sorte de confraternité universelle, comme vous l'avez dit. Izé Morgenstern, ce projet au départ, comment est-il né avec un Dieu qui finalement, on ne le voit pas?
On ne le voit pas, pardon, je vais devoir me répéter, parce qu'il n'est pas là. Donc la question qui est posée au premier, c'est-à-dire chronologiquement au premier, c'est-à-dire aux fils d'Israël, aux Juifs, à l'époque du roi Josias, sans doute. Je suis très attentif aux thèses qui ont été développées par Israël Finkelstein, l'archéologue israélien, et j'ai fait pour Arte, entre autres, une série de quatre films qui s'appelle « La Bible dévoilée », qui est adaptée de son livre, une série qui a eu autant de succès que son livre, une vraie curiosité dans un pays aussi laïque que la France. C'est là que le livre de Finkelstein s'est le plus vendu, 100 000 exemplaires. C'est-à-dire la question qui est posée, que dit de vrai la Bible hébraïque? Il y a eu un moment historique qu'on peut pointer, où une collectivité s'est trouvée sans les moyens de durer. Elle a perdu sa capitale, Jérusalem, elle a perdu son territoire, mais on lui avait vendu, entre guillemets, le projet de continuer à exister et de porter une certaine bonne parole. Cette manière d'exister, moi j'emploie le terme démocratique, à l'opposé de la démocratie grecque, qui est une démocratie de débat, là c'est une démocratie de projet. Le peuple n'a pas de grand prêtre, n'a pas de roi, et il doit porter son affaire seul. Seul, c'est-à-dire sans ces cadres-là qu'on considère toujours en philosophie politique comme obligatoires. Donc voilà, l'histoire elle est là, il l'a tenté du 6e siècle avant Jésus-Christ à Jésus-Christ, avec des résultats, on va dire, moyens, pas nuls, mais moyens. Il y a eu le rétablissement d'un royaume sous les Maccabées. Et le christianisme est venu reprendre ce projet selon une autre méthode. Il a dit, vous avez échoué parce qu'on ne confie pas une telle mission à un peuple. On le confie à tous. Lorsque l'islam est venu, vous le savez bien, il a dû constater que à la fois le judaïsme était un peu hors jeu, ils étudiaient le long de la vallée de l'Euphrate et donc ils n'avaient plus de logique d'expansion ni de pouvoir, mais que le christianisme aussi avait à ses yeux échoué à porter ce projet de manière universelle. Donc il a proposé une autre manière d'opérer et il se pose bien en troisième. Donc il hérite, c'est une question complexe, mais il hérite et il modifie tout en étant dans la continuité du projet.
Isaiah Morgenstern, devons-nous avoir nécessairement une vision séquentielle de la révélation, et donc celui qui parle le dernier prétend avoir nécessairement raison, au mieux il accomplit, au pire il abroge, ou une vision un peu à la manière de l'œuvre de Monet quand il a peint la cathédrale de Rouen. Quand il la peint le matin, on a peint le même jeu d'ombre et de lumière. Quand il la peint l'après-midi, on n'en a pas la même impression, c'est le cas de le dire. Et c'est selon donc le peuple récipiendaire, les contingences humaines, la période qui fait qu'on a un rapport avec ce Dieu qu'on ne connaît pas. Et pardonnez-moi de revenir à la première question, c'est que le peuple premier, les fils d'Israël, voyaient que les peuples alentours ont des dieux personnifiés, et le leur, c'est peut-être là aussi où est leur génie, c'est de dire, ben nous ne le voyons pas. C'est ainsi que les choses se présentent ou vous avez une autre lecture ?
Non, ça c'est la lecture historique et donc je m'y rallie. Et elle me paraît cohérente. Je vois deux questions dans votre question unique. Un, est-ce qu'historiquement il y a quelque chose de l'ordre de « je constate ce qu'a fait le précédent » et « je suis dans une logique ou de remplacement » ou de modification, ou de reléguer le ou les précédents. C'était déjà le cas du christianisme, on le sait, avec le virus Israël et Vétus Israël, c'est-à-dire nous sommes maintenant la nouvelle révélation, et ça va être le cas quand on lit le Coran, dans les critiques que le Coran émet vis-à-vis des deux, des juifs et des chrétiens. Donc là, il y a une logique. Celui qui vient en troisième est censé, et c'est le cas, j'approuve ce point de vue, est censé apprendre des erreurs et des échecs des prédécesseurs. Dans ce sens, l'islam est une religion cohérente qui dit n'allez pas dans les directions précédentes parce que nous savons où elles ont mené, elles n'ont pas abouti. On va pas, la critique n'est pas totale, mais elle dit ils n'ont pas abouti. Et je rajouterai quelque chose avant de passer à l'autre point de vue. C'est l'islam, dans ce sens, est moderne. Il est le dernier arrivé dans une société qui, elle aussi, fait le bilan de son propre passé. Et il y a énormément de points de fonctionnement à l'intérieur du monde musulman qu'on retrouve dans le monde contemporain. Ça, c'est quelque chose, je sais que je provoque toujours un peu la stupéfaction quand j'en parle, mais le modèle, enfin c'est pas un modèle puisqu'ils ne se sont pas copiés, mais quand on arrive après, on arrive après. Et la société actuelle qui nous pose des soucis de compréhension, elle est très facile à comprendre si on connaît l'islam. Voilà mon point de vue. Maintenant, est-ce qu'ils sont meilleurs ? Non, la méthode employée est différente. Et mon rêve, peut-être j'imagine le vôtre aussi, c'est que les gens puissent choisir la méthode qui est la leur. Le marxisme, bon, c'est assez vieux, mais enfin quand même, a choisi de confier le fait de faire un monde de justice et de paix à une collectivité précise, au prolétariat. Les autres ne servaient à rien. On est dans un modèle qui est celui du judaïsme, c'est-à-dire on confie la mission à des techniciens, à un peuple, à un groupe particulier. Comme quoi, c'est une méthodologie, c'est pas uniquement un problème. L'universel, on sait ce que c'est, on a pu se couper de la référence à Dieu et c'est devenu les Lumières. Donc on est dedans, avec les difficultés que connaît aujourd'hui l'universel. La Oumma, c'est pour moi plutôt un modèle évangéliste. Donc il n'y a pas que les musulmans qui sont dans ce dispositif-là, les chrétiens évangélistes peuvent l'être. Mon rêve, je terminerai là-dessus, c'est qu'on puisse décider que dans telle ou telle façon d'opérer, aux États-Unis plutôt l'Ancien Testament, en France plutôt le Nouveau, dans d'autres régions plutôt l'Ancien, personnellement aussi, que telle méthode convient ou telle méthode ne convient pas, et qu'on n'utilise pas la violence pour l'imposer aux autres. Ça, j'avoue que je le dis pour dire quelque chose, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible.
Alors, Isaiah Morgenstern, la boutade classique veut que les marxistes disent « soyons marxistes, ne parlons pas de Marx », mais appliquons ce qu'il nous enseigne. Et puis, c'est vrai que la violence, lors d'une émission précédente, j'ai eu l'occasion de dire que ça relève de l'archaïsme, de croire qu'elle ait une quelconque efficacité. Mais allons-nous pouvoir nous affranchir de son antique servitude ? C'est le rêve que vous et moi formulons au avant ensemble. Et c'est vrai qu'on ne peut pas convoquer les phalanges angéliques pour assister les armées terrestres.
C'est dans les textes, pourtant.
Oui, mais c'est justement...
C'est dans l'Ancien Testament, on le sait.
Ou le Premier Testament, comme vous dites si bien. La suite, alors, cette idée, c'est d'erreur, mais pas une erreur totale. C'est simplement de rectifier comme ça un peu...
Une erreur de méthode.
Une erreur de méthode, finalement.
Vous savez que elles sont redoutables. Girard a écrit là-dessus. C'est cette proximité plus les erreurs de méthode qui provoquent la violence la plus inouïe.
Et le fond reste le même.
Le même. Donc, et il n'est pas prêt à disparaître. C'est une des énigmes qui est problématique lorsqu'il m'arrive d'intervenir auprès de francs-maçons ou auprès de laïcs, comment dirais-je, militants. C'est je leur dis, ôtez-vous de l'idée que ce cauchemar, parce que c'est un cauchemar pour eux, que ce cauchemar de l'existence des monothéismes puisse disparaître uniquement parce que vous le souhaitez. Le fait qu'il y ait un monde de justice et de paix, un principe espérance pour les laisser pour compte de l'humanité, va durer. Et dans la sphère qui est la nôtre, on a des trois monothéismes, c'est-à-dire dans l'Occident et la Méditerranée, ça va durer un certain temps. Donc la question se pose de qui peut faire autrement. Pour moi, c'est à l'intérieur de cette sphère que se posent ces questions-là, si on tient compte que les Lumières sont le christianisme sécularisé. C'est-à-dire on a un ensemble. On confie à un peuple, on confie à tous, on confie à des groupes, et on a un projet qui parle à l'humanité.
Pourtant, Isaiah Morgenstern, les anthropologues du fait religieux disent que l'aventure monothéiste est tardive dans la longue et lente maturation de l'humanité. C'est-à-dire, on a été amené toujours par ce désir d'instaurer dès ici-bas, sans attendre un au-delà annoncé comme meilleur et durable, ce monde de justice et de paix. C'est ce à quoi tend l'âme humaine.
C'est ce que disent certains anthropologues, je ne crois pas. Je crois qu'une des inventions des monothéismes, c'est de dire nous avons une obligation de résultat et nous devons instituer par l'éthique un monde de justice et de paix. Ça ne veut pas dire que les polythéismes ne valent rien. Lorsque le judaïsme s'est mis en place, ils étaient tout à fait conscients qu'ils étaient entourés de grands empires qui tous étaient polythéistes, puissants et efficaces. Donc leur monothéisme ne leur paraissait pas, a priori, la meilleure voie. Mais il y a un projet qui est celui de laisser pour compte de l'humanité et d'un Dieu à plein temps. Alors, puisque vous me poussez dans mes derniers retranchements là-dessus, pour moi, le fait qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, c'est la décision qu'il y ait un Dieu à plein temps, et non pas un panthéon, qui s'occupe de l'humanité. dans le judaïsme, dans le cadre d'une alliance, un couple, c'est assez brutal, mais ils travaillent ensemble. Dans le cadre du christianisme, dans le cadre de sacrifices mutuels, je dirais, un a donné son fils, les autres donnent leur vie ou donnent leur âme. Dans l'islam, il y a une certaine distance que je trouve problématique, mais qui est le résultat des deux essais précédents. Mais en même temps, c'est un Dieu à plein temps, jaloux et qui s'occupe de la collectivité des musulmans et de la collectivité humaine. Ils savent qu'ils ont quelqu'un à qui parler. Dans les polythéismes, non. Donc, je maintiens que cette affaire-là n'est pas close.
Dans les polythéismes, parfois on a un dieu qui trône avec des divinités auxiliaires s'occupant chacune d'un pan ou d'un département de la vie, le temps, la mort, l'amour, etc., la peur.
Oui, un dieu par objectif.
Un dieu par objectif, et dans le monothéisme, c'est celui-là qui couvre la totalité.
Pas seulement. On peut, évidemment, la religion est obligée de s'adapter aux besoins de la population, donc vous pouvez appeler le même Dieu, le Dieu supérieur, seul et unique, pour retrouver vos clés. Mais c'est pas l'objet. L'objet, c'est l'éthique. C'est le fait que vous ayez une vie viable. Alors après, ça se décline. Mais le Dieu, pour retrouver ses clés, on l'a dans le polythéisme. C'est le Dieu du coin pour tel truc, pour faire pleuvoir, pour ceci. On l'a aussi dans le monothéisme, c'est pas l'objet.
Alors, Ise Morgenstern, je reposerai ma question après, mais là tout de suite sur l'éthique. Une des définitions de l'éthique serait réussir une vie bonne, bonne pour soi, utile pour autrui. Et donc, de ce fait, le corollaire serait avoir foi en un Dieu, un, clément et miséricordieux. Il peut être jaloux et appelé à la vengeance, mais avant tout, il est présenté aussi comme un Dieu d'amour et de bonté. C'est cette foi-là qui est le support ou l'adjuvant pour que cette éthique puisse être une réalité dès ici-bas.
Oui, c'est-à-dire qu'elle met en avant la dimension d'obligation. Et cette dimension d'obligation, elle est, vous le savez, très problématique. Nous vivons dans des sociétés où la valeur première est la liberté, pas l'obligation. Si on souhaite, et je souhaite, j'ai été militant, donc je le souhaite, militant pas religieux, militant politique, que la dimension d'obligation soit première. Disons, pour aller vite, je me suis beaucoup rallié aux écrits de Lévinas, mais pas uniquement. J'ai fait un DVD, et des émissions et des programmes pour la télévision sur Lévinas, et j'ai participé à de nombreux colloques que j'ai organisés. Il met en avant l'idée d'obligation, plus que l'idée de liberté. Évidemment, il essaye de sauver la liberté. Moi, je suis moins attentif à cette question de liberté. Je crois que si on veut que des gens s'en sortent, il faut mettre en avant le fait qu'ils sont obligés à quelque chose. Et obligé, c'est l'éthique. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Parce que c'est comme ça. Je ne crois pas, pour enseigner la philosophie politique, je ne crois pas que ça se déduise. Je crois que ça s'accepte parce que c'est comme ça. Et donc, il n'y a pour l'instant que le dispositif monothéiste qui dit clairement « c'est comme ça », en parlant de l'éthique. Est-ce que ça signifie que lorsque j'en parle, j'ai beaucoup de succès ? Non.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Ise Morgenstern, auteur et réalisateur, membre des équipes fondatrices du journal Libération, et vous en parliez, et surtout aussi de la chaîne Arte, où vous avez, entre autres, monté et réalisé ce film La Bible dévoilée, une série en 4 épisodes. et vous êtes enseignant, professeur de philosophie, de la philosophie politique. Juste avant de cette pause, vous avez parlé de l'éthique et comme une adhésion. Je pensais au gai savoir de Nietzsche qui dit « Qu'est-ce qui me pousse à adhérer intimement à tel ou tel commandement ?» Et donc, vous pensez que cette adhésion-là ou cette obligation est le corollaire de la croyance ou de la foi en un Dieu ?
Oui, on peut le dire comme ça. La notion d'adhésion, pour avoir été donc militant, je me répète, j'y crois moyennement. Je crois que vraiment à la notion d'obligation. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une obligation est acceptable ? C'est qu'elle est générique et qu'elle permet un vivre ensemble. Donc, ce que les gens vont admettre, je l'espère, comme étant raisonnable, ils vont être obligés de le faire. Et non pas débattre en disant « c'est raisonnable, mais bon, pas ce matin je vais faire autre chose, je ne tuerai pas, mais lui, oui ». Enfin, c'est-à-dire cette déclinaison à l'infini des espaces de liberté qui a complètement déstructuré la destinée humaine, y compris même à ne plus mettre en priorité l'humanité, mais le vivant. C'est un problème absolument énormissime. Le vivant ne peut pas être mis sur le même plan que l'humain. Or, on a ces discussions. Les monothéismes empêchent ça. Le statut de l'animal ou le statut du vivant n'est pas le statut de l'homme.
Alors on parle du sensible ou du statut de celui qui est doué d'une certaine sensibilité. Revenons, si vous voulez bien, Ise Morgenstern, à l'idée d'un Dieu qui est à plein temps. Alors, comment expliquez-vous
à plein temps pour s'occuper des hommes.
Pour s'occuper des hommes. Et alors, la notion qui viendra plus tard et qui est, à mon sens, à la fois intéressante et pertinente, du Tzimtzum et d'un Dieu qui se retire pour laisser les hommes face à leurs responsabilités. Quelle lecture faites-vous de ce retrait ? C'est pas un retrait territorial, c'est une sorte de contraction.
Le retrait en lui-même. En tout cas, c'est ce que dit la Kabbale de Safed, de Luria. On est au XVIIe siècle. Et donc, c'est bien après. Enfin, c'est le résultat. Alors, si on le juge sur le plan historique, c'est le résultat d'une suite de catastrophes qui sont arrivées au peuple juif. L'expulsion des Juifs d'Espagne, la montée de la science et de la philosophie. Et on sait que Maïmonide, donc contemporain d'Averroès, connaît un destin assez similaire. Ses livres, en particulier le Guide des Égarés, sont brûlés en place publique à Montpellier, parce que la philosophie ne peut pas faire, d'après les mystiques et les rabbins, le travail de la religion. Et donc, la montée des sciences et de la philosophie est un danger supplémentaire, et qui met en avant la nécessité de faire appel à la mystique pour être sauvé. Les mystiques sont des réparateurs de la dernière heure. Et puis, la montée des peuples. Les peuples réclament, et j'espère que cette situation va se mettre en place aussi dans l'islam, les peuples réclament de pouvoir gérer leur destin, et pas seulement l'oligarchie intellectuelle. Pour le judaïsme, c'est une oligarchie intellectuelle, ou dans le christianisme, l'appareil d'État. Enfin. Tout ça en même temps fait que, d'un seul coup, se développe l'idée que Dieu a laissé la place au monde, le Tzimtzum, donc, a laissé la place au peuple, et leur dit « c'est à vous de faire le travail ». Ça porte un très joli nom en histoire des religions, ça s'appelle la théurgie. C'est-à-dire que c'est aux fidèles d'aider Dieu à faire le travail. Voilà, cette idée, elle est magnifique, moi je trouve qu'elle est splendide. Elle est contemporaine du Tzimtzum et de tout ce qui va aller avec, c'est-à-dire le messianisme apocalyptique et mystique, avec Sabtaï Tzvi. En fait, d'un seul coup, le peuple prend son destin en main. On le sait, mais quand on n'étudie pas l'histoire des religions, et en France c'est vraiment des obstinés, ils ne veulent pas qu'on étudie l'histoire des religions, on voit pas que ce phénomène n'aboutit pas qu'à la Révolution française. Il aboutit aussi à la prise en main par la population juive, en l'occurrence, puisqu'ici il est question d'eux, de son propre destin et du chassidisme.
Oui. Alors, entre Maïmonide du XIIe siècle, 1135-1204, jusqu'à Luria et sa Kabbale, il y a cette maturation. Et donc, la notion du Tzimtzum, du retrait, devient illustrative de fait d'aller de pair avec la modernité et les découvertes scientifiques. Et pensez-vous qu'en contexte islamique, avec un dieu omnipotent, omniscient, qui est transcendant, autre, tout autre, mais en même temps proche, plus proche que la veine jugulaire, comme le dit le Coran, il y a lieu de laisser cette relation au divin avec sa toute-puissance, et même si on laisse place à sa miséricorde, ou il y a lieu de laisser les hommes se débrouiller tout seuls ici-bas, dans cette théurgie.
Je vais vous répondre à quelque chose que vous connaissez mieux que moi, c'est l'interprétation du terme « calife ». Dans le Coran, il est dit que l'homme a été mis en place sur terre pour être le calife de Dieu. Calife, si j'ai bien compris, signifie ou le lieutenant ou le tenant lieu. C'est-à-dire selon les deux, probablement que vous en direz quelques mots plus savants que moi-même, mais ça m'avait beaucoup frappé ça. Et donc si c'est le lieutenant, il est tenu à obéir à Dieu. Si c'est le tenant lieu, il est libre de faire ce qu'il veut, étant entendu que Dieu n'interviendra plus. Or, je ne suis pas musulman, donc je le regarde de l'extérieur. Je trouve qu'il y a un souci avec le Dieu de l'islam, c'est qu'il n'intervient pas et qu'il est promis qu'il n'interviendra plus. Et donc il y a une certaine solitude du monde musulman et une certaine liberté, celle du tenant lieu. On doit faire avec. Est-ce que le fait de se retrouver avec un Dieu avec lequel on ne peut pas dialoguer facilement ou à qui on ne peut pas offrir de sacrifice, y compris de sa propre personne, la place du mal, la place de la douleur. La douleur ne signifie pas grand-chose en islam. Elle n'est pas probante, je veux dire.
Parce qu'il n'y a pas une approche doloriste
voilà,
des faits.
Absolument. Oui, mais ça crée une certaine forme de solitude. On est un peu les gens que je rencontre quand je vais en banlieue, les jeunes et tout ça, même s'ils sont pas des théologiens, savent ça. C'est-à-dire, ils savent qu'ils sont livrés d'une certaine façon à eux-mêmes. D'où les grands frères et d'où les imams. C'est difficile à dire. Dans le Tzimtzoum, il y a une initiative divine dans le récit, hein, dans le récit, à savoir, voilà, je me retire, faites votre travail. Mais il le dit et il envoie après des émanations de lumière. Il y a toute l'histoire des vases brisés, il y a des récits, des magnifiques récits. Mais il y a une action et donc l'homme peut modifier l'intervention divine. Je me trompe ou ça n'est pas possible en islam?
Comme il n'y a pas monsieur islam et une approche monolithique du fait islamique, la réalité est beaucoup plus nuancée et complexe. Et une fois qu'on a dit complexe, soit on se défausse sur le mot, soit on se coltine l'explication. Et comme ce n'est pas moi qui réponds aux questions, je dis simplement que les mystiques,
oui,
comme vous dites si bien, rattrape les choses, médite parfois à en pleurer un aphorisme qui n'est pas un aphorisme prophétique, c'est de la tradition sainte. Donc c'est Dieu qui parle et qui dit « Mon serviteur, adorateur, ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens lui par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il saisit fermement et le pied par lequel il marche. Quand il vient à ma rencontre en faisant un empan, je ferai une coudée. Quand il vient à ma rencontre en faisant un pas, je ferai une enjambée. Quand il vient me voir en marchant, j'irai l'accueillir en courant. » C'est-à-dire ce dialogue permanent entre Dieu et Dieu. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous savons pas qui c'est, et c'est une approche apophatique, comme disent les théologiens. On ne sait pas ce qu'il est, mais on dit ce qu'il n'est pas, parce qu'il ne faut pas verser dans l'anthropomorphisme. Moi, ma question, Isée Morgenstern, c'est que, est-ce que dans le cadre du monothéisme, notamment du judaïsme, christianisme et islam, et peut-être davantage dans l'islam, ces questions majeures du mal, les questions qui taraudent les simples éternelles questions auxquelles l'homme est confronté, en trouver des réponses, ou du moins des réponses satisfaisantes, à tout le moins.
Je vais vous dire mon point de vue, qui est dans mon livre, sur les réponses qu'elles ont apportées. je dirais pas trouvées, apportées. Mais après, est-ce qu'elles sont satisfaisantes? Le judaïsme fonctionne selon une logique de réparation. On n'est pas très attentif parce que la lecture est souvent chrétienne, mais dans le premier testament, comme on dit, lorsque Caïn tue Abel, puisque c'est le premier moment d'un mal absolu, on enlève Adam et Ève, lorsque Caïn tue Abel, il y a un verset un peu plus loin qui dit que Ève connut Adam pour avoir un fils, pour remplacer celui qui lui manquait.
La fameuse connaissance biblique entre un homme et une femme.
Absolument. Mais c'est l'idée qu'ils constatent qu'il leur manque un enfant et donc ils vont le remplacer. La logique de réparation, c'est celle qui est à l'œuvre. La logique de réparation ne donne pas au mal un statut ontologique particulier. Elle dit le mal existe, il y a eu des bêtises de fait, c'est la sottise, le mal est la bêtise et la sottise. On doit réparer. C'est quelque chose qui est un peu à la source du droit anglo-saxon. La réparation, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on continue. Le christianisme ne s'est pas attaqué au monde, le christianisme s'est attaqué à l'homme. Il faut éradiquer le mal en l'homme. Bon, je laisse les gens juger, moi y compris, du résultat qui peut pas être nul. Disons une amélioration de la qualité de chacun, Le mal existe parce qu'il existe en nous. Et donc, c'est l'homme qui est porteur du mal, et par l'aveu, par la confession, par la vérité, par la transparence, toutes sortes de méthodes qui sont spécifiques au christianisme, on va éradiquer le mal. L'islam, c'est assez particulier et assez étrange. Il y a l'idée que la question du mal et du bien n'est pas du ressort de l'homme. Elle est du ressort de la divinité, c'est-à-dire une fois qu'on a disparu de ce monde. Qu'est-ce qui est du ressort de l'homme? Le licite et l'illicite, c'est-à-dire ce qu'il est permis de faire et ce qu'il n'est pas permis de faire. Est-ce qu'il y a un mal métaphysique tel que le fidèle musulman se doit de le respecter? Non. Tu ne tueras point, tu aimeras tes parents, ça figure dans le Coran. Il n'y a pas énormément de lois dans le Coran. Il n'y a pas un corpus comme dans le judaïsme. Et il n'y a pas toute une série d'intentions affirmées avec énormément de force comme dans le Nouveau Testament. Donc, à mon sens, le fidèle musulman se doit d'avoir une vie droite et de laisser à la vie ultérieure, à Dieu, le soin de décider si cette vie droite avait de la valeur. Je peux vous rappeler, je me souviens plus de la sourate, mais les gens s'en souviendront, il y a un passage dans le Coran où quelqu'un s'adresse à Moïse, à Moussa, et lui dit, voilà, un bateau a été coulé, et dans ce bateau, il y avait énormément de gens qui sont morts, et des gens innocents, par la force des choses, enfin on ne sait pas. Et est-ce que je suis coupable de quelque chose de mal? Et la réponse est, ne te mêle pas de ça. Peut-être qu'il y avait à l'intérieur de ce bateau quelqu'un qui s'apprêtait à faire des choses terribles. Il n'y a que Dieu qui le sait. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire, sous-entendu c'est peut-être un acte de guerre. Mais... Et donc, on a un plafond, une limite à l'initiative éthique, à l'initiative morale du fidèle musulman. Ça ressemble beaucoup à nos sociétés, où le mal a perdu toute dimension métaphysique.
Alors, Isaïe Morgenstern, ce que vous avez évoqué là se trouve dans la sourate 18, dite de la caverne, avec un homme mystérieux appelé le verdoyant et qui enseigne, dit-on, par l'absurde, pour laisser une perplexité à l'homme, ce compagnonnage de Moïse, c'est une des lectures qu'on fait de ce passage. Et il n'y a pas que l'histoire du bateau, il y a l'histoire des murs et absolument, l'histoire aussi d'un poisson, etc. Et il demande à Moïse d'ailleurs d'être patient avec lui. Et au bout d'un moment, il lui dit, eh bien ici nos routes se séparent puisque tu n'as pas été suffisamment patient avec moi dans l'enseignement que je te donnerai. Donc on différera la réponse à plus tard, qui a donné d'ailleurs lieu à une école théologique, puisqu'on connaît en gros les Mu'tazilites, ceux qui se sont mis à l'écart, ceux qui se sont isolés, ce courant rationaliste, et puis les autres, les Ash'arites. Mais il y a aussi ceux qui diffèrent à plus tard, à l'au-delà, les questions complexes, épineuses, auxquelles ils n'arrivent pas à répondre. Isaïe Morgenstern, je voudrais revenir à la question du tenant-lieu, du lieutenant, cette notion du vicariat, du califat, l'homme est le calife de Dieu sur terre, pas dans son sens de successeur d'eux, comme ça a été pris par la suite à propos de la succession du prophète. Et je pense à une métaphore que j'emprunte à cette notion de l'artiste désargenté qui, sur le boulevard Saint-Michel, fait une belle fresque sur le trottoir. Et le plus souvent, à la fin, il donne le bout de craie à un passant et en lui disant « Fini, mets ta patte ». Mutatis mutandis, on est dans la même situation. L'univers, la création est là. Et puis c'est à l'homme, comme co-partenaire de Dieu, mettra sa patte et c'est à lui de l'incliner dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que cette métaphore illustre un peu cette notion du vicariat ou pas ?
Si on reste dans les questions éthiques, morales, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une bonne vie, une vie bonne, et des gens de qualité ? La réponse est oui. Je crois sincèrement que, aussi bien dans le judaïsme, le christianisme et dans l'islam, l'idée d'être des gens dignes est centrale. La méthode est différente, mais elle est centrale. Par contre, il y a un élément qui est assez différent, c'est que faire du monde. Le judaïsme, il y a des récits là-dessus, disent que c'est à toi de finir le travail, mais d'améliorer la création. En fait, le judaïsme accorde énormément d'importance à la création. Sur les 13 000 manuscrits recensés de la Kabbale, de la mystique juive, la quasi-totalité commence par une relecture de la création. Donc, ne se préoccupe pas tout de suite du destin de l'homme, mais du destin du monde à améliorer. Le christianisme, lui, comment dirais-je, a une logique de rétribution. C'est-à-dire, si on se comporte correctement, on va être récompensé, ici-bas, mais surtout dans l'autre monde. L'islam ne se préoccupe pas de modifier la création. Il considère que le Coran dit que la création telle qu'elle est, elle est impeccable et elle est bonne. Et il n'y a pas lieu de la compléter. Et donc, il s'agit juste d'avoir une vie, enfin juste, c'est beaucoup, d'avoir une vie bonne. Est-ce que cette vie peut être améliorée ? J'ai du mal à employer ce genre de terme, c'est-à-dire de génération en génération, parce que je ne vois pas de notion progressiste dans l'islam. L'islam repose sur un temps cyclique et non pas sur un temps progrès. Et donc, il ne croit pas, en tout cas, il ne le dit pas, qu'aujourd'hui ou demain est meilleur qu'hier. Et ça augmente l'état de solitude du gars qui doit terminer le dessin, pour reprendre votre métaphore. C'est-à-dire, dans quel sens terminer le dessin ? Qu'est-ce qu'il s'agit de compléter ? Là, il y a une difficulté, que je trouve inhérente et au Coran et au monde musulman, c'est le fait de ne pas avoir de projet progressiste.
À mon avis, c'est contingent et c'est accidentel, puisqu'à un moment donné, quand on était ouvert sur la sagesse des Grecs dans la Translatio Studiorum et on n'a pas considéré les sciences dites profanes comme étant des sciences intruses au corpus religieux, à ce moment-là, on était plutôt dans une volonté de décryptage du monde afin de le comprendre. On était même ébahi de son intelligibilité afin de... En méditant les splendeurs de la création, de s'approcher davantage de Dieu selon l'aphorisme, selon le gnotésiotique socratique. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu. Pour Socrate, les dieux au pluriel et l'univers. Et donc, c'était d'une volonté d'avoir à améliorer, enfin à parfaire en quelque sorte la création. Après, pour X raisons, nous en avons eu l'occasion de parler ici avec d'autres intervenants ici, c'est-à-dire dans cette émission, sur la régression tragique et qui est un retour, c'est le propre même du mot salafisme, le salaf, revenir à la pratique des pieux anciens, parce que l'avenir est considéré plutôt dans le passé, qui est considéré Absolument. Comme plutôt meilleur et proche de la pureté originelle. Nous sommes sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam, avec Ise Morgenstern, auteur et réalisateur, membre des équipes fondatrices du journal Libération et de la chaîne Arte, enseignant, professeur de philosophie politique, et puis notamment producteur et réalisateur de cette série, La Bible dévoilée, une série en 4 épisodes sur Arte.
Et l'aventure monothéiste, qui est donc sur les 3 monothéismes, qui était passée sur France 2.
Et c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui dans une approche à la fois comparative d'une même grande famille, même si c'est pondéré au sens premier du terme, du côté de l'islam, puisqu'il s'agit d'une émission relative aux questions d'islam, au pluriel. Mais comme la famille est une, nous voulons comprendre qu'est-ce qui les rapproche, qu'est-ce qui les différencie dans cette mouvance-là. Et donc, à un moment donné, vous parlez, Ise Morgenstern, du livre. Ce sont des religions à livre, du livre. Les chrétiens disent non, nous sommes plutôt adeptes d'une religion à personne. Comment abordez-vous ces choses-là et comment les comprenez-vous?
Je les comprends comme certains. Je me suis rallié à une opinion qui est défendue par des universitaires. La seule vraie religion du livre, c'est l'islam, parce qu'elle dépend absolument d'un livre. C'est-à-dire qu'il est le socle qui unit les fidèles musulmans, c'est le fait qu'il y a un livre qui est le Coran, et que ce livre ne peut pas être commenté comme le judaïsme commente l'Ancien Testament, c'est-à-dire en disant là où il est écrit tu feras, il faut lire, tu feras pas. La liberté de commentaire du judaïsme par le Talmud est infinie. Et cette liberté-là, elle ne joue pas dans l'islam. Donc il y a un livre qui est une histoire, 10 siècles de la vie du peuple juif et des fils d'Israël. Ça, c'est l'Ancien Testament, le Premier Testament. Il y a l'histoire d'un groupe, mais ce sont des témoignages, même si donnés comme étant révélés par Dieu, pour ce qui est de la Torah, par exemple, c'est pas le cas pour les évangiles. Il y a, comment dirais-je, l'autorité d'un document. Mais cette autorité est constamment mise en cause dans les deux. En tout cas, dans le judaïsme et dans le christianisme, le livre ne fait pas autorité. Ce qui fait autorité, ce sont les témoignages. L'islam est la religion du livre. L'islam est la religion d'un document à partir duquel il faut construire une fidélité, à partir duquel il faut construire des actes religieux et revenir au livre lorsqu'on est un peu perdu. Dans le judaïsme, non seulement on peut revenir au Talmud, mais maintenant à la mystique, parce que le socle n'est pas un livre, mais un peuple. Et dans le christianisme, le socle est un appareil. Pendant longtemps, ça a été un appareil, l'Église. Et donc, il lisait pas les livres, vous le savez. Il disait « Que dit l'Église ?» Il a fallu le protestantisme et le retour au Premier Testament pour que le livre prenne l'importance du programme d'un peuple, c'est-à-dire les peuples qui se sont trouvés en mal de d'émancipation, en Allemagne, les anglo-saxons, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, ont pris l'Ancien Testament comme modèle d'aventure d'un peuple, pas d'une histoire seulement. Donc voilà, oui, le statut de religion du livre, c'est l'islam qui le porte pleinement.
Ise Morgenstern, si je vous comprends bien, pour le cas du judaïsme, le socle est un peuple, et donc les écrits vétérotestamentaires apparaissent comme un témoignage sur les pérégrinations, la vie,
et la mission,
les fidélités, qu'il a reçu. La mission de ce peuple, y compris pour le Pentateuque aussi.
Oui,
très bien.
Tout à fait.
Enfin, si
ce vous qui le fait
dites.
Qu'il y a 2 judaïsmes au minimum dans le Premier Testament, celui du Pentateuque, de la Torah, où un peuple est censé être organisé dans sa vie sur une terre, alors qu'il a été donné dans le désert. C'est assez compliqué, ce témoignage. Mais donné dans le désert, il organise la vie autour d'un temple, autour de différentes catégories. Ce peuple installé chez soi. Puis, il y a la deuxième partie, avec les prophètes, enfin les prophètes de l'exil, c'est que fait ce peuple lorsqu'il n'est plus chez lui. Mais c'est cette aventure sur 10 siècles. Le christianisme, c'est un groupe de personnes autour de Jésus. Donc, ce sont des témoignages dont certains se contredisent, mais ça n'a aucune importance réelle, puisqu'il est question ici de témoins, de gens qui ont été avec cette aventure du Fils de Dieu. Dans l'islam, c'est pas un scoop, le livre a été délivré à quelqu'un sur lequel il y a de nombreuses discussions. Savait-il lire, savait-il écrire? Est-ce qu'il est juste un médiateur transparent? Ou au contraire, est-ce qu'il y a un risque que ce Coran ait été déformé? Il y a cette histoire de Coran déposé au ciel, qui serait le Coran authentique, et le Coran dont nous disposons serait un Coran humain. Mais tout tourne autour du livre et de la réponse assez qui montre bien pour moi la stratégie, donc je peux le dire rapidement. La Bible hébraïque est en hébreu. C'est une langue peuple. La Bible chrétienne était d'abord en grec, puis en latin. C'est une langue de notaire, pour employer un terme pas très élégant, mais c'est ce qui permet à l'institution de fonctionner. C'est la langue, c'est l'espéranto d'un appareil de l'Église. Le Coran est en arabe, or il concerne 20% peut-être des fidèles en langue arabe. Donc, ça n'est pas un peuple, c'est une langue. Cette langue, elle a un statut particulier, et donc je vous renvoie à des choses que vous avez dû lire. C'est, est-ce que Dieu parlait arabe? Est-ce que les hommes se doivent de connaître cette langue? Mais l'usage de l'arabe va avec l'usage du Coran. Donc, on a vraiment une religion du livre.
Oui, pour ce dernier point, c'est un peu, à un moment donné, quand Dieu se révèle, se révéler, c'est à la fois se manifester, mais par là même se voiler ou se revoiler, c'est amphibologique comme mot. Quand il se fait homme parmi les hommes, alors vous dites que pour le christianisme, le socle est une église, une ecclésia, une communauté, peut-être aussi
une institution.
Et une institution. Mais quand il se fait homme, il y a une incarnation en un homme. C'est une contingence réelle, un homme avec ses attributs humains. Et quand ce livre-là doit être écrit, il faut bien une langue véhiculaire. À ma connaissance, à supposer que je puisse parler ainsi, Dieu ne parle pas arabe, ne parle aucune langue ou les parle toutes, comme disent certains.
Vous savez que c'est été un sujet de débat à l'intérieur du monde musulman.
Ah, bien entendu, très tôt, puisque le débat... Peut-être qu'il y a un texte et puis tu feras telle chose, le décalogue y est éparse, certes, d'une manière qu'on retrouve d'une parcellaire par-ci, par-là, dans le corpus, mais les différentes interprétations vont depuis l'allégorique, métaphorique, symbolique, anagogique, à ne pas confondre avec l'analogique, jusqu'à la littéraliste, et c'est celle-là qui nous ennuie de nos jours. On poussait quelqu'un comme Averroès, que vous avez cité, 1127-1198, à dire « S'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées dans leur sens obvi et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie, parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais la campagne témoigne pour elle. »
Vous savez qu'Averroès a donc dû céder le pas à la suite de ses remarques au monde des fidèles, au monde musulman.
Ah oui, bien entendu, et c'est une des difficultés, et le mot est très euphémistique, de nos jours, dans lesquels, et l'ornière dans laquelle se débat la pensée philosophique et théologique islamique. Poursuivons, si vous voulez bien, Isaiah Morgenstern, cette conversation sur... Alors, non plus maintenant le statut du livre, mais de l'actualité brûlante, de l'espérance. S'agit-il, dans votre approche comparative ou synoptique à tout le moins, d'avoir, pour revenir à votre idée du projet, ce projet, il faut le poursuivre comme ça ou le l'améliorer ou l'amender, ou y a-t-il des choses à revoir?
Pour moi, je rappelle, j'ai été militant, donc c'est là-dessus que je fonde ce que je dis. Le principe espérance n'est pas à réaménager. Le projet qui consiste à permettre ou à ce que soit envisagée une amélioration de la vie de tous, donc des laissés pour compte de l'humanité, par le biais de l'éthique, dans les trois monothéismes, je vois pas pourquoi on y toucherait. Par contre, comment procéder? Et cette manière de procéder, elle change, elle se modifie par la force des choses. Il y a de moins en moins de peuples. Donc vous me forcez un petit peu à dire que est-ce que le peuple juif est encore en mesure de porter le projet qui est celui de l'Ancien Testament ? J'ai des doutes là-dessus, mais pas à cause du projet, à cause de la, du fait est-ce qu'il y a encore un peuple en état de le faire ? Pour l'Église, c'est plus facile, parce que les gens y vont à bras raccourcis. La logique institutionnelle contre l'appareil de l'Église, plutôt la logique de combat contre l'institution ecclésiastique, est telle que est-ce que l'Église est encore en état de porter un projet qui reposerait sur un appareil, comme les Lumières sur l'État français, par exemple ? Là aussi, ça s'affaiblit. Donc, que vaut la Ouma ? La Ouma vaut beaucoup, pour moi, à mes yeux. Ça m'a occasionné pas mal d'ennuis quand je disais que je trouvais que l'islam était moderne et que la stratégie employée par l'islam, elle est contemporaine. Mais il faut oublier la notion d'universel. Parce que la Ouma n'a pas vocation à être universelle. Elle a vocation à permettre à des fidèles de se comporter le plus correctement possible, d'avoir une vie juste, mais il n'y a pas d'universel. Est-ce qu'on peut vivre sans universel ?
La boutade classique veut que lorsqu'il y a deux universels, il y en a au moins deux trop. Or, vous nous avez dit que le christianisme et l'islam ont cette vocation à l'universel. Et je souscris tout à fait, comme vous, à l'idée que la Ouma, la matrie, la communauté des croyants, n'a pas à être nécessairement universelle. D'ailleurs, pour revenir chez nous, en France, et en Europe, le citoyen, quel qu'il soit, ayant une confession ou pas, et s'il est de confession islamique, a d'abord une allégeance à sa patrie, donc une allégeance sociale et politique, et puis une allégeance, dans un second temps, morale ou spirituelle, à la Ouma. Mais d'abord à sa patrie, à son pays, à sa nation. J'imagine que pour les autres citoyens, ça doit être aussi le cas.
C'est pareil, mais ça signifie qu'il faut un corpus d'obligations, puisqu'on revient au début de notre entretien, minimal, pas les 613 commandements du judaïsme, pas le droit canon, et un corpus d'obligations minimal auquel se rallie toute l'humanité, et après, chacun décline à l'intérieur de son espace la manière dont il veut porter sa foi. Ce corpus minimum, il est déjà dans le Coran. Non pas qu'il est comme il faut. On peut pas dire qu'il soit organisé comme un corpus minimum. Mais il est minimal. Dieu veut pour vous la facilité. Il y a quelque chose à creuser là. C'est-à-dire, sous le toit ou la couverture de ce corpus minimal d'obligations humanistes, que puissent se mettre en place, ou se maintenir, ou se développer des stratégies différentes qui s'inquiètent du destin de l'humanité, et pas uniquement de ces oligarchies ou des savants, parce que les savants n'ont pas pour objet de nous rendre la vie meilleure sur le plan éthique.
Merci infiniment, cher Isaac Morgenstern, pour cette discussion, cette conversation, un entretien que j'ai eu plaisir à mener avec vous.
De même.
Votre livre, L'aventure monothéiste, judaïsme, christianisme, islam, ce qui les rapproche, ce qui les distingue, paru à La Découverte, nous a servi comme base de discussion. Chers amis auditeurs, vous trouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Jean-Richard Dufour. Et la réalisation est toujours faite par Franck Lilin.
יש לו ניגון מיוחד משלו דע לך שכל עשב עשב יש לו שירה מיוחדת משלו Say, Nigun, כמה יפה, כמה יפה בין העת, כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם, ומשירת הצבים מתמלא הלב ומשתוקק. של הלב